Avec Marcus Gabriel, la philosophie ressemble à un spectacle de magie.
How many people in this room believe in the existence of unicorns? I will argue today, in some detail, that there really are unicorns, but that the world does not exist.
Bienvenue dans l'univers d'un philosophe insensé, prodige, Mozart de la philosophie, jeune star allemande. Marcus Gabriel est à la base un amateur de hip-hop. Et un fan de skateboard contrarié. Une chute à l'âge de 10 ans, le clou au lit. Il découvre la philo et entame un parcours universitaire fulgurant. À 29 ans, il devient le plus jeune titulaire d'une chaire de philosophie en Allemagne. Aujourd'hui, à 39 ans, Marcus Gabriel dirige le Centre international de la philosophie à Bonn. Chercheur et enseignant voyageur, il parle 10 langues, un sage polyglotte presque parfait.
Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Ja, es ist schwierig zu vermeiden, jetzt zu lügen, aber ich vermute gestern Abend.
Vrai du faux, faux semblant, Marcus Gabriel nie l'existence du monde, mais croit à la force de la pensée humaine face au développement de l'intelligence artificielle. Ce papa de deux filles s'est quitté le ciel des idées pour faire l'éloge des séries télé. Selon lui, l'œuvre la plus vivante et la plus complète de notre temps.
The Bluth family.
We're shooting footage for Lindsay.
Campaign footage.
You're running for office?
À la veille du scrutin de mai, Marcus Gabriel veut rendre aux citoyens la propriété du projet européen et ainsi donner une âme à l'Union. Cette série-là pourrait durer plusieurs saisons.
Marcus Gabriel, on va évidemment parler de l'Europe avec vous, mais tout de même, c'est un peu interloquant de vous voir, vous, l'immense philosophe, considérer que les séries télé sont l'apothéose de la production culturelle, artistique, esthétique, humaine, contemporaine. Ça l'est véritablement ?
Oui, oui, je crois qu'en règle générale, hein, l'art, c'est-à-dire la fiction, c'est la révélation de la vérité sur nous. Parce que l'être humain, fondamentalement, est un être qui s'imagine. Donc, nous vivons dans l'imagination de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Hein, ça, c'est aussi l'origine de l'éthique. Hein. Nous ne sommes pas des brutes. Hein. Nous sommes des animaux, mais des animaux imaginaires. Hein. Et c'est pour ça que nous révélons l'idée que nous avons de nous à travers de l'art. Et c'est ça que les Américains surtout exploitent avec les séries, l'Internet, etc. Hein, il y a aussi une attaque contre l'esprit humain sur son propre terrain,
alors
c'est-à-dire
ça,
l'art.
On va revenir aussi à l'attaque contre l'humanité, qu'est le transhumanisme. Mais je crois que Claude voulait vous poser une question.
Il y a beaucoup de gens qui se cassent un membre en faisant du patin à roulettes ou du skate. Tous n'en deviennent pas philosophes. Que dit philosophiquement votre supériorité sur la plupart de vos contemporains? Qu'est-ce qu'on fait d'un surcroît d'intelligence et comment fait-on pour être aussi heureux dans son époque quand on est si intelligent?
Oui, alors, en tout cas, pour moi, l'origine de la philosophie, en tout cas dans mon cas autobiographique, c'est savoir qu'on doit mourir. Donc la mort est aussi le potentiel d'une libération extrême. Hein, parce qu'en un certain sens, ce que nous faisons en ce moment-là a beaucoup moins d'importance qu'il nous semble. Et pour moi, ça, c'est l'origine même de l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire la capacité de penser face à la mort.
Mais vous admettez que vous avez été doté de plus d'intelligence que la plupart des mortels aujourd'hui?
Je ne sais pas. Donc, même si je le croyais, hein, il serait un peu pas gentil de le dire, mais peut-être c'est vrai.
Marcus Gabriel, le gai savoir, c'est ce que vous pratiquez, le gai savoir n'est pas à la portée de la première machine venue,
ouais.
Notamment les algorithmes et toutes ces machines qui envahissent nos vies.
Ouais.
En quoi nos libertés, notre libre arbitre est-il menacé par les algorithmes, par l'intelligence artificielle?
Oui. Alors, la menace, c'est pas la machine, hein, c'est l'imagination de l'homme d'être une machine. Donc la machinisation, pour ainsi dire, de l'homme. Hein? L'homme-machine, hein? Mm-hmm. Ça c'est l'imaginaire que j'attaque. Donc l'intelligence artificielle, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones, etc., l'intelligence zéro. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est un pur mythe. Hein? Il n'y a ni l'intelligence artificielle, ni la singularité, etc. C'est un mythe américain et aujourd'hui aussi chinois, etc., pour dominer le reste du monde. Donc c'est de la publicité américaine, ça.
Le transhumanisme ou cette conception de l'homme augmenté, c'est pour améliorer l'homme ou pour détruire l'humanité?
C'est pour,
in fine.
Oui, c'est ça. c'est une attaque dans la cyberguerre que nous voyons aujourd'hui. Hein, il y a une grande cyberattaque contre, dans ce cas, l'Union européenne qui est fondée sur l'humanisme. Et c'est ça, la Révolution française qui, après adoptée en Allemagne, en tant que la philosophie allemande n'est qu'une réaction à la Révolution française. Et ça, c'est l'origine de l'idée même des droits de l'homme. Et qui attaque l'homme attaque les droits de l'homme. Mmh. En philosophie, c'était un peu le jeu, évidemment, de Nietzsche jusqu'à Heidegger. Et c'est aussi la philosophie propagande des nazis. Et c'est pas une coïncidence que Hitler aimait Nietzsche et aussi Heidegger. C'est pas une coïncidence.
On va revenir à l'intelligence artificielle, Marcus Gabriel, avec vous, à propos d'une application.
Ouais, d'une société américaine. Vidya, qui a récemment présenté sa dernière trouvaille, figurez-vous, un outil ultra performant, Gauguin, à ne pas confondre avec Gauguin, quoique la similitude est sans doute volontaire, car comme l'explique l'un de ses concepteurs, avec cet outil, tout le monde peut être artiste. Alors si vous êtes comme moi, que vous dessinez comme un pied, eh ben c'est fait pour vous. Gauguin est capable de transformer un gribouillis en photo, la photo d'un paysage qui n'existe pas, c'est bluffant. Alors comment ça marche tout ça? Eh bien il suffit de quelques clics. Hein. Vous avez sur le côté gauche de votre écran des petites icônes, un pot de peinture, un stylo, un crayon, et puis le tour est joué. L'outil va créer de toutes pièces l'image à partir du dessin, je dis bien créé, avec plus d'un million d'images prises sur Flickr et inscrites dans son réseau neuronal. L'outil ensuite s'adapte. Par exemple, si je rajoute de la neige au sol, il sait tout seul qu'il faut aussi changer la couleur du ciel. Autre particularité, deux personnes qui dessineraient la même chose n'aurait pas le même résultat. Gauguin est ce qu'on appelle multimodal, c'est un mot un peu barbare. Les algorithmes qui régissent l'outil font que les résultats proposés sont différents. Alors typiquement, cet outil pourrait servir dans des domaines comme jeux vidéo, design, architecture, mais la société Nvidia, elle voit beaucoup plus loin. C'est fait, dit-elle, pour les rêveurs du monde entier. Alors Marcus Gabriel, vous, ça vous fait rêver, ça, ou ça vous fait peur?
Oui, pour moi, c'est vraiment un cauchemar, hein, parce qu'il n'y a, pas de peinture dans ça. Hein. Personne ne peindre, donc ne peint. Il y a l'illusion de l'art, mais zéro art, c'est du design. Il y a une grande différence entre ce qu'on appelle le kitsch ou bien le design et le véritable art. Hein. Le véritable art a quelque chose à faire avec une capacité de produire quelque chose ou bien d'imaginer quelque chose, d'inventer des nouveaux concepts, etc. Et dans ce cas, il y a zéro invention. Mmh. Hein. Il y a une pure organisation, traitement de données par une série d'algorithmes et rien que ça. Donc c'est pas une pratique artistique, c'est de la technologie. Mmh. Bien utile, mais sans valeur artistique, esthétique.
Marcus Gabriel, dans un mois, les élections européennes, il y a un peuple européen, ça existe?
Non, ça n'existe pas du tout, parce qu'il y a encore toute une crise, je crois, conceptuelle par rapport à ce que c'est l'Europe. L'Europe n'existe pas encore et l'Europe n'a jamais existé. L'Europe, comme nous savons
bien... Géographiquement, historiquement, ça n'a jamais existé?
Non, non, non. Quelle géographie? Nous savons bien qu'il n'y a pas de géographie, il y a une géographie de l'Eurasie, mais pas de l'Europe. Hein. Il n'y a pas des frontières bien délimitées par la nature. Hein.
Donc, sur le plan des valeurs, ce qu'on appelait l'idéologie rhénane, État bienveillant à ses populations, ça existait, ça a conçu l'Europe.
Oui, oui, absolument, mais ça, c'est pas l'Europe. Les Grecs, par exemple, anciens, n'avaient pas notre valeur. Hein. Nos valeurs, aujourd'hui, sont plus ou moins des valeurs qui se sont développées après la Révolution française. C'est l'égalité, liberté et, comme on doit dire aujourd'hui, la solidarité. Donc, une certaine conception d'une solidarité de ce que Étienne Balibar, en France, appelle l'égale liberté, c'est-à-dire égalité, liberté et surtout les droits universels de l'homme. Hein. Et les Grecs anciens, d'où le terme « Europe », n'avaient pas cette idée. Il y avait une grosse différence entre les Grecs et les barbares. Hein. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'Europe doit défendre quelque chose qui n'existe pas encore, une vraie obligation par rapport à un universalisme sans frontières. Hein. Et ça n'existe pas encore. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui un débat sur les frontières.
Universalisme sans frontières, ça pourrait être donc une forme de valeur européenne.
Oui, ça c'est l'Europe. Okay.